RCF.
Bonjour, amis auditeurs, auditrices de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, sous le patronage d'Agora Défense, dans le cadre du Berry se raconte. Nous retrouvons Madame Michèle Dujani. Bonjour, Madame.
Bonjour, Monsieur.
Vous êtes professeur agrégé d'histoire, honoraire et président de la section du Cher de l'Ordre des Palmes Académiques. Nous poursuivons aujourd'hui la seconde partie des instituteurs dans la Grande Guerre, avec pour thème les instituteurs dans la guerre. Nous y sommes. Madame Dujani, nos instituteurs mobilisables de notre département du Cher quittent la classe le 2 août 1914. Où sont-ils affectés ?
Alors, ils sont affectés très près de chez eux. Pour les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui relèvent de l'active, ils vont au 95e régiment d'infanterie à Bourges. Pour la plupart, une minorité vont au 85e régiment d'infanterie à Nevers. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'entre eux, ils sont de la réserve, de l'active, voire de la territoriale pour les plus âgés. Donc ils vont au 61e et au 62e régiment de territoriale. Et puis, pour ceux qui sont entre les deux, ils vont au régiment de réserve d'active, le 295e de ligne.
Une question. Sont-ils des combattants comme les autres? N'oublions pas, ce sont des enseignants, des instituteurs.
On pourrait répondre oui, bien sûr, ce sont des combattants comme les autres, ils ont les mêmes règles de mobilisation. Ce qui est intéressant de suivre autant qu'on puisse le faire, c'est leur carrière militaire avant la guerre, pendant leur service militaire et pendant la guerre. Alors avant la guerre, on s'aperçoit très nettement d'une différence entre ceux qui ont fait leur service avant 1905 et ceux qui l'ont fait après. Pour les plus âgés, en 1914, quand ils sont mobilisés, ils sont en général très peu gradés, soldats de deuxième classe, éventuellement caporal, mais c'est très très rare. Par contre, pour ceux qui ont fait leur service après 1905, ils ont, pour un bon nombre d'entre eux, suivi les pelotons de formation pour être caporal, sergent et éventuellement aspirant. Donc, une minorité d'entre eux est dans la liste des 233. Il y a une petite quinzaine d'officiers, c'est-à-dire qui vont commencer la guerre en tant qu'officiers. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est leur carrière pendant la guerre.
Oui.
Alors, pour les plus jeunes d'entre eux, disons ceux qui ont 20 ans à partir de 1914, eh bien, ceux-là suivent très fréquemment les pelotons en accéléré, si j'ose dire.
Oui.
Et pour un bon nombre d'entre eux, ils deviennent aspirants, ce qui ne veut pas dire, puisque aspirant c'est le dernier grade des sous-officiers, ça ne veut pas dire que tous vont devenir officiers. Mais il y a des carrières tout à fait fulgurantes et impressionnantes.
Justement, ces instituteurs, est-ce qu'on a des écrits, des lettres de ces instituteurs qui ont quitté leur école ? Est-ce qu'ils ont écrit à leur école pour donner des nouvelles ?
Alors, certainement, ils l'ont certainement fait, mais je n'ai pas trouvé aux archives de documents l'attestant très précisément. J'ai quelques témoignages, alors très indirects, de jeunes soldats, en particulier de Normaliens. Je pense à Henri Guillemin, qui est mort tout jeune pendant la guerre et qui écrivait à sa maman institutrice. Et en fait, elle, par ce biais-là, puisqu'ils habitaient dans la même commune, elle a dû transmettre à des classes ses témoignages. Mais je n'ai pas de documents plus précis, si ce n'est des cartes de vœux envoyées par tel ou tel instituteur à son inspecteur. Donc le lien demeure, ça c'est clair, mais je ne suis pas capable d'en dire davantage.
Une autre question qui vous passionne, Madame Dujani. Reste-t-il des lettrés et des pédagogues dans la tranchée ?
Alors oui, absolument. Je dirais que c'est le caractère le plus distinctif, puisque dans la formation à l'école normale et ensuite, enfin on les encourage d'abord, mais on sait que les instituteurs sont des lecteurs, qui lisent beaucoup, qui lisent bien sûr des romans. Victor Hugo arrive dans le best-seller de leur bibliothèque. Michelet, bien sûr, Anatole France, Jules Romain et beaucoup Jaurès. Énormément, ils se sont de grands lecteurs de Jaurès. Or, ils lisent aussi des journaux, ce sont des gens qui sont, comme je le disais, des lecteurs. Est-ce qu'ils vont le rester aux armées ? Oui, on le sait, parce que j'ai retrouvé des lettres de certains qui passent commande à leur famille ou à des amis d'ouvrages qu'ils reçoivent, semble-t-il, au front. Et ils écrivent beaucoup, ce sont des rédacteurs de lettres très abondants. J'en ai eu connaissance de quelques-unes, malheureusement pas trop, puisque ce sont des documents privés, donc ils ne sont pas forcément versés aux archives. Mais on a évidemment des témoignages.
Est-ce que vous avez perçu dans vos recherches, Madame Dujany, une évolution du moral au travers le courrier entre 1914 et 1918? Est-ce que dans ces 4 années, vous avez senti une perception? On peut trouver ça dans les archives ou dans les documents.
Alors, dans les lettres, je vous redis que je n'en ai pas eu beaucoup entre les mains. Bon, il faut savoir que le courrier était censuré. Donc, effectivement, on ne peut pas y trouver d'état d'âme, si je peux dire, dans ces lettres particulières. Plus intéressants sont les carnets de guerre. Oui. Or, il se trouve que pour le Cher, nous n'en avons que des traces assez particulières. J'ai appris, enfin, tout à fait incidemment, par un document d'archives très indirect, qu'un des jeunes habitants du Cher, qui avait suivi l'école normale de Paris et qui était stagiaire à Suresnes, mais qui gardait des contacts avec sa famille berrichonne, a écrit des lettres qui ont fait l'objet d'une publication et d'un prix de l'Académie française après la guerre. Ce jeune s'appelait Lobé et c'est sûrement un parcours extrêmement intéressant. Donc, dans ses lettres à sa sœur et à son père, là encore, on trouve très peu de remarques sur le déroulé de la guerre. Par contre, en dehors du Cher, il y a un certain nombre de ces carnets qui ont été édités, qui sont très critiques en général, très critiques sur les décisions de l'état-major, très critiques sur la façon dont est menée la guerre, les assauts. C'est en général une position, on va dire, de recul par rapport à ce que cette guerre inflige aux combattants. Mais néanmoins, ils continuent à combattre.
Néanmoins, ils continuent à combattre.
Voilà.
Il n'y a pas d'abandon.
Non, en tout cas dans le Cher, ça c'est clair, il n'y a eu aucun abandon, aucune défection, désertion ou mutinerie.
Donc vous n'avez pas décrit véritablement de journal de campagne?
On a un ouvrage qui est tout à fait passionnant, mais qui est très particulier. C'est le journal de guerre d'Henri Lannes, qui a fait une grande partie de sa carrière à Néronde, qui était normalien du Cher, qui s'est marié juste avant la guerre avec une institutrice, dont on a retrouvé, grâce à sa famille, qui l'a gardé scrupuleusement, un très beau cahier qui sera exposé aux archives, un cahier qui a été écrit à partir de 1933 seulement, qui est un document passionnant avec des photos qu'il a prises pendant la guerre, avec un texte qui est extrêmement précis, qui laisserait supposer qu'il a pris des notes pendant la guerre, mais qu'on n'a pas retrouvé. Alors c'est un journal très postérieur aux événements, qu'il rédige de 1933 à 1942, cette année très importante, enfin pour la France et bien sûr pour l'occupation de la totalité du territoire, mais surtout parce que cet événement déclenche chez lui une sorte de dégoût. Il prend sa retraite de l'instruction publique et il arrête très net son cahier, comme une espèce de geste désespéré, ayant lui espéré que ce serait la der des der, voit à nouveau la France plongée dans l'horreur de la guerre. Et c'est un document tout à fait passionnant, qui est plein d'humour, curieusement. C'est un joyeux luron, cet Henri Lannes, qui aime bien plaisanter. Il va même jusqu'à organiser un concours de grimaces chez ses amis de la tranchée pour obtenir des rations supplémentaires de gnôles.
Ah, tout à fait. Donc, c'est un témoignage très, très intéressant.
Extrêmement intéressant. Oui. Extrêmement intéressant.
Et cette date de 1942 qui, pour lui, est quelque chose de terrible.
C'est une catastrophe nationale et personnelle.
Alors, rappelez-moi ce qui s'est passé en 1942 pour nos auditeurs.
Eh bien, c'est l'occupation de la zone dite libre par l'armée allemande. C'est-à-dire que la France perd toute apparence de liberté, c'est beaucoup dire, mais enfin, la France est totalement occupée.
Donc, nos instituteurs du département du Cher ont un comportement parfaitement, je dirais, normal, comme la majorité des combattants de cette Première Guerre mondiale.
Oui, si ce n'est que, et ça c'est aussi un élément très important, c'est qu'ils ne perdent pas leur réflexe de maître, d'instituteur, et que quand ils le peuvent, ils redeviennent des pédagogues. En particulier quand ils sont, et ça on en a des témoignages assez nombreux, et d'Henri Lannes en particulier, quand ils sont hébergés chez des habitants, quand les cantonnements manquent, eh bien très souvent ils donnent des leçons aux enfants de la maison. On leur demande d'ailleurs souvent, et très souvent, enfin, je pense à quelques exemples, ils se lamentent du niveau pitoyable des enfants.
Déjà à l'époque.
Déjà à l'époque, déjà à l'époque. Voilà. Alors l'armée aussi les utilise, soit au début de la guerre quand on reconquiert en partie l'Alsace, c'est-à-dire qu'avant ils étaient instituteurs soldats et ils deviennent soldats instituteurs. C'est-à-dire qu'on les envoie avec une mission d'instituteur pour, et c'est l'expression consacrée à ce moment-là, pour renationaliser l'enseignement des communes reconquises en Alsace-Lorraine. Quant à la fin de la guerre, certains, à la demande du ministère de l'Instruction publique, au lieu de reprendre leur poste en Berry, enfin dans le Cher, ils demandent d'exercer en Alsace-Lorraine pour prolonger leur guerre, en fait, mais en tant que pédagogue.
Oh, merci Madame Dugénie pour ces explications d'une très grande clarté. J'en profite aussi pour rappeler à nos auditeurs, auditrices, la remarquable exposition « L'école en guerre 1914-1918 jusqu'au 13 janvier 2019 à la direction des archives départementales et du patrimoine, musée de la résistance et de la déportation à Bourges, organisée par l'AMOPA ». Merci, amis auditeurs, auditrices de l'émission « La vie militaire dans le Cher et le Berry » sous le patronage d'Agora Défense, dans le cas du Berry se raconte, et à très bientôt pour la suite des instituteurs dans la Grande Guerre. Nous traiterons les instituteurs après la guerre. Bonne semaine à vous.